Radio 1, premier sur l'info, le journal.
Avec MCM.
Vendredi 27 février, le journal de la mi-journée, présenté par Antoine Samoyau. Bonjour.
Bonjour Moreto, bonjour à tous. Le procès au civil du crash d'Air Moréa s'est tenu hier au palais de justice de Papeete. Les familles demandent 2,4 milliards de francs à l'assurance de la compagnie Air Moréa. Vous entendrez leur détresse toujours vive dans ce journal. Gaston Flosse qui tacle publiquement le député Jean-Jacques Urvois. Le parti Orange a diffusé hier une lettre ouverte de son président au député actuellement en visite au Fénois. Un courrier dans lequel Gaston Flosse accuse le parlementaire d'afficher trop publiquement sa vision de la politique locale. Enfin, je recevrai ce midi la présidente et la vice-présidente de l'association Polynésie Alzheimer, une maladie qui touche bon nombre de Polynésiens, mais surtout de Polynésiennes. Nous reviendrons sur ce sujet en fin de journal. À tout de suite.
Alors, les familles des victimes du crash d'Air Moréa demandent 2,4 milliards de francs.
Le procès sur les intérêts civils du crash d'Air Moréa s'est tenu hier au palais de justice de Papeete. Les avocats ont plaidé toute l'après-midi pour déterminer un chiffrage du préjudice subi par les familles des 20 victimes de la catastrophe. Et ce sont les avocats des familles qui ont commencé les premières plaidoiries. Ils ont justifié le montant de leur demande de 2,4 milliards de francs en listant les réparations qu'ils estiment justes et équitables. On écoute maître Gérard Montigny qui défend les intérêts des familles.
Vous savez, ici, on n'est pas dans un dossier où c'est une question d'argent. Les familles de victimes ont besoin que tout ce qu'elles ont vécu soit reconnu. C'est pour ça que nous avons bien détaillé ce qu'était l'angoisse des victimes. Et puis, de prendre en compte aussi, on n'en a pas parlé tout à l'heure, l'anxiété des familles. Vous savez, ceux qui ont attendu pendant 4 heures, 5 heures, 10 heures, certains pendant 2 jours, certains pendant 3 semaines, de savoir vraiment si leurs proches étaient disparus, dans quel état étaient les corps. Et pour ceux qui n'ont pas été retrouvés, est-ce qu'ils étaient vraiment décédés? Il y a tout ce dommage d'anxiété, d'attente.
L'avocat de l'assureur d'Air Moréa, la société AXA, a affirmé que les indemnités qui ont été proposées aux familles par transaction étaient supérieures à celles pratiquées habituellement dans ce type de catastrophe. Pour autant, AXA n'a pas souhaité communiquer le montant de ces indemnités. Il a d'ailleurs refusé de s'exprimer à l'issue de l'audience. Maître Claude Liénard, l'autre avocat des familles de victimes, a estimé quant à lui que la proposition d'AXA était insuffisante.
La présentation qui a été faite est très réductrice. La jurisprudence que l'on évoque du Mont-Saint-Odile est aujourd'hui ancienne. Il y a eu des avancées en matière aérienne. Et ce que nous demandons ici est actualisé par rapport à ces jurisprudences nouvelles, et notamment par la décision rendue la semaine dernière par le tribunal d'Aix-en-Provence dans le crash de la Yemeni Airways. Leur proposition, elle était insuffisante sur les montants, sur les postes. Elle ne tenait pas compte des nouveaux préjudices. AXA s'oppose à indemniser tous les préjudices et veut les cumuler sur un seul poste qui est le préjudice d'affection.
Ce procès au civil s'est révélé souvent technique avec une froideur des chiffres qui a fortement contrasté avec la douleur toujours vive des familles des victimes, même 7 ans après le drame. Samia Stambouli a recueilli les témoignages d'une mère, Marthe Taboutouareï, qui a perdu son fils dans l'accident, de Nicolas Fourreau, un père de famille qui a dû annoncer à son fils de 5 ans la mort de sa mère, et enfin de Christophe Leroux, lui qui a perdu son père dans le crash.
Moi, ce que je veux, que la justice soit faite. Qu'ils reconnaissent quand même qu'eux, ils ont commis des erreurs. Qu'ils viennent au moins demander pardon à la famille. Et là, non. Et je ne les vois pas dans la salle. Les responsables de Air Moréa, c'est ça. Moi, ça me fait mal. 7 ans et demi, quand même, c'est long. Surtout que c'est long. Il faut que ça finisse.
Annoncer à son fils de 5 ans que sa mère est morte et entendre quasiment tous les jours le cri de son fils, encore aujourd'hui. Parce que cette douleur est persistante. Est-ce que ça vaut les 800 000 francs dont il parlait? On oublie complètement la dimension humaine. Ils oublient que dans l'avion, il y a des orphelins de père et de mère. Toute cette dimension humaine est complètement écartée pour des priorités purement économiques.
Si, c'est un petit peu difficile, surtout qu'on a un petit peu l'impression de valoriser une vie ou de marchander une vie, donc c'est pas des discours qui sont forcément faciles à entendre. Pour moi, en tout cas, bon, c'est une épreuve obligatoire, mais c'est pas une épreuve facile. Et je pense qu'aujourd'hui, la première étape, elle a été faite avec ce procès au civil, et que maintenant, on attend avec impatience que les responsabilités soient avérées, soient jugées au pénal.
Le délibéré sur le volet civil est donc attendu pour le 1er avril prochain, avant un procès au pénal qui devrait se tenir début 2016.
Actualité politique à présent avec Gaston Flosse qui a taclé hier le député Jean-Jacques Urvois, actuellement en visite en Polynésie.
Le Tahoeraa qui a diffusé hier une lettre ouverte adressée par Gaston Flosse au président de la commission des lois de l'Assemblée nationale, Jean-Jacques Urvois. Le parlementaire est actuellement en visite au Fénois et avait accordé une longue interview à nos confrères de Tahiti Info avant d'arriver sur le territoire. Des propos qualifiés qualifié d'hostile par le leader du Tahrir A. Mais au-delà de ces propos, Gaston Flosse critique l'attitude du député. Le président du parti Orange n'a pas apprécié l'absence du député Jonas Tahouaitou dans la délégation du député socialiste. Et Gaston Flosse de s'interroger, je cite, « Est-il sanctionné parce que par deux fois, il n'a pas voté la confiance du parti socialiste au parti socialiste, contrairement aux deux autres députés ? Est-il de ce fait jugé indésirable ?» Pour Gaston Flosse, cette attitude est antidémocratique et ne peut être interprétée que comme une caution de nature à encourager la division et l'instabilité politique. Fin de citation.
Justice toujours avec cette initiative de la gendarmerie, détruire les kits moteurs de scooters trafiqués.
Hier matin, à Motouta, la brigade motorisée de FAA a procédé avec la société Fenouama à la destruction par compactage de kits moteurs et échappements saisis sur des deux roues non homologuées. Le but de l'opération était d'enrayer le phénomène des runners. Une opération de destruction avait d'ailleurs déjà été conduite l'an dernier et pour l'adjoint Frédéric Baudy, elle avait entraîné une réelle baisse des runs du week-end. Écoutez-le au micro de Vaïté Ourari Pambrin.
Nous avons constaté depuis l'année dernière, on a déjà fait une opération, on avait détruit deux cyclomoteurs modifiés, on a vu une réelle baisse des runs, le vendredi soir, le samedi soir. Fin d'année, on a eu un retour de ces runners, mais en ville. La police a fait quelques opérations. Sur le secteur gendarmerie, ça s'est, on va dire, un peu calmé, et là, ça revenait à la mode. L'amende de base, on va dire, pour un échappement, c'est 8100 francs, juste pour la modification d'un échappement. Après, nous, on saisit les pièces, et c'est la justice qui fait son travail. C'est-à-dire que les jeunes sont généralement convoqués devant la justice.
Cette opération s'inscrit évidemment dans le cadre de la lutte contre l'insécurité routière. Les conducteurs de deux roues représentent environ la moitié des victimes des accidents de la route. Et les modifications effectuées sur ces engins rendent évidemment leur conduite bien plus dangereuse. Écoutez le chef de la brigade motorisée, Régis Croxo, sur ce point.
La majeure partie effectue des modifications concernant le moteur, donc ils en augmentent la puissance et la vitesse, mais tout ce qui est organe de sécurité derrière, à savoir le cadre, les suspensions et le freinage, eux ne sont pas modifiés. Donc on a un engin qui roule deux fois, voire trois fois plus vite, mais par contre le cadre n'est pas modifié, donc le cyclomoteur a des tendances à bouger, à se vriller, le système de freinage n'est plus adapté du tout, donc il y a une surchauffe et des freins qui ne fonctionnent plus du tout, et on a également la tenue de route qui est modifiée parce que l'engin roule plus vite alors que les suspensions n'ont pas été modifiées non plus.
Mais est-ce qu'ils sont conscients de tous les dangers?
Ceux qui font de la modification loisir et qui roulent sur circuit, eux font ça correctement et ont des engins qui sont modifiés au niveau freinage, cadre, eux c'est des modifications qui sont correctes, mais il faut bien le rappeler qu'ils ne roulent pas sur la route avec cet interdit. Par contre ceux qui font ça un peu sauvagement ou pour s'amuser sur la route, je ne pense pas qu'ils aient conscience de ce danger qu'ils encourent à modifier le moteur et pas les organes de sécurité.
Benoît Lair, le directeur de Fenouama, a tenu à s'associer à cette opération afin que le matériel détruit soit réutilisable dans un futur proche après exportation en Nouvelle-Zélande. Écoutez-le.
C'est vrai qu'il y avait eu des opérations impressionnantes où on voyait des cylindres ou des engins poids lourds rouler sur des appareils saisis. Malheureusement, derrière, ça rendait la filière de traitement encore plus délicate. Alors là, aujourd'hui, ce que nous faisons, ce que nous proposons, c'est de mutualiser les opérations traditionnelles que nous faisons avec les administrations, les sociétés ou le territoire ou les communes. Et ces opérations de destruction de saisie, puisqu'on mélange donc les déchets saisis aux déchets de ferraille de voiture, et ça fait des sarcophages, donc les pièces saisies sont totalement prisonnières dans ces voitures qui vont ensuite être acheminées en Nouvelle-Zélande pour être transformées en de nouvelles pièces métalliques pour l'industrie.
Donc aucune perte.
Il n'y a aucune perte, et puis surtout, ces produits vont quitter le territoire et peut-être revenir sous la forme de nouveaux scooters légaux.
Midi passé de presque 10 minutes, on marque une pause, courte pause, on reviendra avec nos invités entre autres.
Radio 1, premier sur l'info.
Retour au journal Antoine, et on reprend avec un événement désormais incontournable du début d'année, la Tahitienne, la course qui se déroulera le 7 mars prochain.
Comme chaque année, près de 5000 participantes sont attendues pour partager un moment entre femmes et récolter des fonds pour l'association d'aide aux personnes atteintes du cancer. Samedi prochain se déroulera la 14e édition de la course La Tahitienne dans les rues de Pirae. Le but recherché par La Tahitienne n'est pas vraiment la performance sportive. Avec un parcours de seulement 3 km, l'association Courir en Polynésie souhaite avant tout que cet événement soit festif et convivial. Le but est davantage de sensibiliser à la cause du cancer et en particulier des cancers féminins de type mammaire ou gynécologique. Des maladies particulièrement difficiles à vivre pour les femmes puisqu'elles portent atteinte à leur féminité. C'est d'ailleurs pour cette raison que la course est organisée à la veille de la journée mondiale de la femme. Je vous propose d'écouter la présidente de l'association Courir en Polynésie, Evelyne Raymond, interrogée hier sur cet événement. Elle est au micro de Tamara Sentis.
On a voulu la dédier uniquement aux femmes parce que le cancer du sein et puis alors le cancer de l'utérus est traumatisant pour la femme. Elle est mutilée en fin de compte. Il y a une femme qui a fait la réflexion. Si les hommes ont leur enlevé quelque chose en bas, ils feront pas le fanfaron. La femme polynésienne est très pudique. C'est très délicat de discuter de, justement de ce cancer-là. Elle communique pendant la course. Il faut voir un peu tout ce qu'elle, comme elles blaguent, comme elles disent des mots. Même si elles sont fatiguées, si elles ont quelque chose, elles savent encore blaguer. Parce que ça reste entre femmes. C'est une fête un petit peu. C'est un peu la fête ce jour-là. Elles se décontractent. Elles relâchent les pressions. Elles sont entre elles. Et c'est surtout ça qui est important. Elles ne sont pas mises de côté.
L'an dernier, grâce à la participation des 4600 coureuses et la subvention de 500 000 francs versée par la commune de Pilhaye, l'association avait pu reverser 2,8 millions de francs à l'aide pour les personnes atteintes du cancer. Cette année encore, la mairie a renouvelé son partenariat et a alloué la même somme à l'organisation de la course. Si vous souhaitez vous-même participer à cette course cette année, il vous en coûtera 1000 francs. Les inscriptions se déroulent à la mairie de Pilhaye, dans les magasins Carrefour de Haroué, Punaoya et Faa, et les magasins Nike du Vaima et du Pacific Plaza. Avant vendredi.
Et on termine avec nos invités du jour qui viennent nous parler de l'association Polynésie Alzheimer.
Les derniers chiffres de la CPS recensaient 500 personnes déclarées comme étant atteintes de la maladie d'Alzheimer en Polynésie. Pourtant, le chiffre réel serait bien supérieur. L'association Polynésie Alzheimer, elle sensibilise et forme depuis déjà plusieurs années le public à la prise en charge de cette maladie. J'ai le plaisir de recevoir ce midi la présidente de l'association T.A.V. Chaumette et sa vice-présidente Jacqueline Lyonnais. Mesdames, bonjour.
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 Alors tout d'abord, pour nos auditeurs, est-ce qu'on peut rappeler ce qu'est exactement la maladie d'Alzheimer ?
Alors, la maladie d'Alzheimer est une maladie dégénérative des neurones. Donc, elle est irréversible. Lorsque les neurones meurent, il n'y a pas de kit pour pouvoir remplacer ces neurones.
Est-ce qu'on sait combien de personnes aujourd'hui sont touchées en Polynésie ?
Alors, en octobre, on avait fait une enquête et on était déjà à 426 cas déclarés, 200 Alzheimer et 226 maladies apparentées. Donc, je sais qu'il y a eu une augmentation, puisque depuis la mise en place aussi du centre mémoire, depuis le 1er octobre, ils ont pu diagnostiquer encore de nouvelles personnes. Et heureusement, grâce à ce diagnostic, les diagnostics sont beaucoup plus rapides, je vais dire. Parce qu'avant, pour pouvoir avoir un diagnostic complet, ça pouvait prendre 6, 8, peut-être même plus de mois que cela. Que maintenant, en une journée, à cause du plateau qui s'est mis en place grâce à M. Lard et tous ses aides, aujourd'hui, nous avons un centre mémoire.
Est-ce que, vous le dites, 500 personnes, mais en général, on dit qu'il y a aussi il y a beaucoup plus de cas qui ne sont pas déclarés et qui existent également. On peut les recenser, ceux-là, on sait à peu près combien de personnes ils représentent.
On a une idée de ce qu'ils représentent, puisqu'on sait que normalement, on devrait être 1500 à 2000 cas recensés localement. Donc, avec l'association, justement, nous sollicitons les familles, si elles reconnaissent un petit peu les symptômes, justement, de faire diagnostiquer leurs parents pour qu'ils puissent ensuite bénéficier, bien sûr, du carnet rouge qui les accompagne. Mais également, nous, avec l'association, on apporte surtout un accompagnement familial, parce qu'un malade d'Alzheimer, il faut comprendre que c'est une famille qui va s'en occuper. Il y a une perte d'autonomie et il va falloir que la famille s'en occupe.
Alors justement pour ça, l'association Polynésie Alzheimer, elle organise des formations et justement en 2015, pour l'accompagnement hein, des malades et de leurs familles, il y a de nouvelles formations qui sont mises en place.
Voilà, tout à fait. Antoine, en novembre 2014, nous avons fait venir un formateur de Nouvelle-Calédonie, déjà pour une première formation des aidants, qui avait regroupé 28 stagiaires. Et depuis cette formation qui a eu énormément de succès, et succès dans le sens où les personnes ont trouvé beaucoup de réponses à leurs questions, se sont trouvées moins isolées suite à cette formation qui a permis surtout à ces personnes d'obtenir des outils d'accompagnement de leurs proches malades, de se sentir écoutées, de se sentir soutenues. Et surtout aujourd'hui d'avoir du recul, de savoir prendre du recul par rapport à la maladie et de savoir se préserver afin de ne pas tomber dans une situation de fatigue intense et de déprime et de maladie. Voilà. Donc nous avons souhaité bien sûr réitérer des formations en 2015 assez rapidement puisqu'il y a eu beaucoup de personnes qui n'ont pas pu s'inscrire en novembre 2014. Donc il y a 4 formations des aidants prévues en avril. Entre le 9 avril jusqu'au 21 avril, il y a 4 formations de 2 jours et demi prévues donc sur une période courte de 2 semaines.
C'est où ces formations?
Alors, il y a la toute première formation qui dure 2 jours et demi, qui va se dérouler à l'amphithéâtre du CHPF. Et les 3 autres formations auront lieu au siège de notre association, à la salle municipale du conseil municipal de la mairie d'Arroué.
Est-ce qu'il faut s'inscrire auparavant en contactant peut-être l'association?
Tout à fait. Nous sommes en phase de préinscription et voire d'inscription définitive, puisque c'est une formation qui intéresse beaucoup de personnes qui ont un parent proche à s'occuper. Donc nous invitons bien sûr la population, toutes les personnes intéressées par cette formation, de contacter avant tout Annick au 40 50 20 43 ou au 77 80, excusez-moi, 87 79 89 11 pour s'inscrire.
Très bien, c'est noté, le rendez-vous est noté. Donc, autre événement justement qui est organisé plus régulièrement par l'association Polynésie Alzheimer, ce sont ces cafés mémoire. TAV, qu'est-ce que c'est exactement que ces cafés mémoire?
Alors, comme nous sommes en partenariat avec la Nouvelle-Calédonie, c'est eux qui nous ont initiés justement à ces cafés mémoire. Donc on a fait le premier café mémoire en novembre, nous l'avons refait en février, et en fait ce café mémoire se met en place tous les premiers mardis du mois, de 17h à 19h à Bulle de Saveur à Pirey. Et donc on parle de la maladie en général, mais la première heure on a un sujet. Donc nous avons déjà abordé par exemple le sujet de la nutrition, et le sujet que nous allons avoir la semaine prochaine, mardi, sera sur la tutelle.
Ça se passe à Bulle de Saveur et même le Lebihan à Pirey, on rappelle. Hein.
Tout à fait.
On le disait, non, on n'a pas eu le temps de le dire tout à l'heure, mais les femmes sont plus touchées que les hommes dans cette maladie.
Eh oui, mais parce que tout simplement, les femmes vivent plus longtemps.
Très bien, mais ça s'explique.
Voilà.
Et justement, vous serez présente sur le prochain Salon de la Femme également. L'association sera présente.
Voilà, tout à fait. L'association s'est vue offrir la gratuité d'un stand. Donc, lors de ce salon qui va avoir lieu donc, dès la semaine prochaine, entre le 5 mars et le 8 mars, l'association tiendra un stand et il y aura des équipes de professionnels qui ont en charge des malades d'Alzheimer. Ce sont des professionnels qui ne sont pas encore bien connus sur le territoire, mais qui déjà travaillent avec qui aident à stimuler, à rééduquer des patients en début de maladie qui ont des symptômes nécessitant avant tout une prise en charge en soins alternatifs. Donc ce sont des professionnels qui seront présents aux côtés de bénévoles adhérents de l'association, dont nous, membres du bureau et du conseil d'administration. Et nous serons là avec un planning bien fait et déterminé, donc nous médiatiserons certainement d'ici à mercredi, de manière à ce que les personnes intéressées de voir tel ou tel professionnel puissent prendre ses dispositions pour venir les rencontrer.
Et le public pourra venir à votre rencontre. Mesdames, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce midi.
Merci Radio
merci,
One.
Merci beaucoup à vous et voilà, bonne continuation.
Merci et à vous aussi.